Bonjour à tous. Pour l'Institut biblique que nous allons avoir maintenant, il s'agit d'un temps, pour ceux qui ne connaissent pas la formule, d'un temps d'une heure d'enseignement que nous avons. Un temps d'enseignement qui va nous permettre aujourd'hui de clôturer toute l'étude que nous avons eue sur la première lettre de Pierre. Nous sommes arrivés dimanche dernier à la fin de cet épître, mais nous avons, vous l'avez peut-être remarqué, omis un texte, un passage au chapitre 3 qui concerne la relation entre femme et mari chrétien au sein du couple. Et c'est ce texte-là que nous allons aborder ce matin, un texte qui n'est pas tout simple dans la compréhension que nous pouvons en avoir pour aujourd'hui. Ce texte évoque la question de la soumission de la femme et nous allons essayer de comprendre ce qu'il veut dire pour nous aujourd'hui. Alors j'aimerais vous inviter à le lire, nous allons le lire dans la Nouvelle Bible Second, 1 Pierre, chapitre 3, les versets 1 à 7. Vous de même, femmes, soyez soumises à votre mari, afin que, s'il en est qui refuse d'obéir à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, vêtements élégants, mais plutôt celle du cœur, l'être secret, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les femmes saintes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait Seigneur. Et c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et après 6 versets consacrés aux femmes, un qui est consacré aux hommes, vous de même, mari, menez la vie commune avec compréhension, en tenant compte de la plus grande faiblesse du sexe féminin. Honorez votre femme, puisque avec vous, elle hérite la grâce de la vie, pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. Jusque-là, la lecture. Et Seigneur, que cette parole, nous puissions la recevoir comme étant ta parole, ce que tu exprimes pour nous aujourd'hui, en ce temps, en ce 21e siècle et en ce lieu ici à Paris. Amen. Parler de la soumission de la femme, c'est un thème hautement sensible. Et dès qu'on évoque cette question, cela attire plein de remarques de tout genre. Mais j'aimerais faire une première remarque de mon côté, c'est que Pierre ne parle pas de la soumission des femmes aux hommes. Il n'y a pas une théorie générale sur le sexe féminin par rapport au sexe masculin, mais il mentionne ici uniquement la soumission de la femme, donc de l'épouse, à son mari. Donc c'est de cela qu'il est question aujourd'hui dans notre texte. Et pour bien comprendre, eh bien, je vais vous demander de faire un effort et d'essayer de comprendre ce qui se passait au moment où Pierre écrit ces paroles, au moment où Pierre parle aux femmes et aux hommes qui sont en Asie mineure. Parce que si on ne fait pas cet effort de comprendre à qui Pierre parle, nous n'allons pas comprendre ce texte pour aujourd'hui. Donc il nous faut faire ce premier effort. Avant de l'appliquer tout de suite, il nous faut essayer de comprendre ce que Pierre voulait dire. Et c'est que dans un second temps que nous pourrons essayer de comprendre comment ce texte s'applique pour nous aujourd'hui. Et en même temps, j'aimerais dire aussi qu'il s'agit ici de la parole de Dieu. Donc parfois des textes peuvent nous déranger, peuvent déranger notre compréhension du monde, notre vision du monde. Et le Seigneur nous appelle à laisser notre intelligence être transformée par la vision qu'il a, lui, du monde. Alors, le contexte est le suivant, c'est que nous sommes dans un contexte missionnaire. Et vous savez que quand quelqu'un vient à la foi, qu'il se tourne vers le Seigneur Jésus. Mais ça implique un changement de vie. Cette personne va voir sa vie changer de direction ou être alignée sur la direction du Seigneur. Mais quand on est dans un contexte missionnaire, qu'il y a très peu de croyants, que les églises sont en train de se former, et que dans ce contexte-là, un des conjoints d'un couple déjà marié, un des conjoints se tourne vers le Seigneur, eh bien ça peut provoquer des problèmes au sein du couple et même au sein de la société. Parce que le conjoint qui devient chrétien adopte une nouvelle manière de vivre. Et il y a un décalage qui se creuse entre sa nouvelle manière de vivre et puis celle de son conjoint qui est demeuré un croyant. Dans la société antique, on accordait une grande importance à pouvoir garder l'équilibre social de la société. Et donc celui qui voulait commencer à vivre avec d'autres valeurs, il pouvait être perçu comme subversif, considéré comme étant une menace pour la société. Par ailleurs, on est dans un contexte où, apparemment, il y a beaucoup de femmes qui se sont converties à Jésus-Christ sans que leur mari ne suive le mouvement. Et ces femmes, ces épouses chrétiennes, se posent des questions sur leur nouvelle identité en Christ. Elles se demandent, mais comment maintenant que je suis chrétienne, cela doit affecter mes relations avec mon mari non-croyant? Est-ce que ma nouvelle vie en Christ implique que cela change nos rapports de l'un à l'autre? Dans la société, la femme était inférieure. Est-ce que du coup ça change mon rapport à mon mari si je suis devenue chrétienne? Est-ce que je dois continuer à lui être soumise, même s'il ne partage pas la même foi que moi? Alors Pierre s'adresse à ses épouses. Il prend 6 versets pour parler aux femmes mariées et évoquer tout spécialement ce cas où la femme est seule, sans son mari. Son mari est bien là, mais lui ne s'est pas converti. Comment doit-elle vivre sa nouvelle vie? Comment doit-elle vivre dans la société? Quelle doit être sa conduite quand le mari est un croyant, qu'il n'obéit pas aux préceptes de la parole de Dieu? Et la première chose que Pierre dit, c'est « Femme, soyez soumise à vos maris, à votre mari ». C'est le principe général qui est posé. Juste avant cela, Pierre avait dit que les esclaves, c'est au chapitre précédent, que les esclaves doivent aussi se soumettre à leur maître, même lorsque le maître est injuste. Et les esclaves ont pour modèle le Christ qui a dû accepter des souffrances injustes. Et il dit, de même, vous, épouses, agissez de la même manière, acceptez cette soumission. Donc, ce que l'on peut déjà entendre, c'est que cette soumission n'est pas liée au fait que le mari soit croyant ou non. Qu'il soit croyant ou qu'il soit incroyant, le principe est posé. Il y a la demande d'être soumise. Et quelle est la motivation de cette soumission? Il est dit ici que c'est en vue de chercher à gagner le mari à Christ. Il y a une motivation missionnaire. Il y a un comportement à adopter qui doit permettre que le mari, par le comportement de l'épouse, comprenne qui est le Christ. Il y a une deuxième motivation qui est mentionnée au verset 4, c'est le souci de l'approbation du Seigneur. Pourquoi doit-elle être soumise? Non parce que la société l'y contraindrait, mais parce qu'elle a envie d'être approuvée par le Seigneur. Et puis, une troisième motivation qui nous est donnée au verset 5, c'est la volonté de s'inscrire dans la lignée des saintes femmes de l'Ancien Testament. Et c'est notre frère Henri Blocher qui traitera de ce verset 5 tout à l'heure. La femme qui se convertissait pouvait rencontrer toutes sortes de difficultés de la part de son mari. Son mari n'acceptait pas forcément que sa femme change de religion, qu'elle adopte une autre religion que la religion de tout le monde dans la société. Et que du coup, cette nouvelle religion entraîne de nouvelles relations, des nouveaux contacts, une nouvelle vie. D'ailleurs, dans la société de l'époque, il était compliqué pour une femme d'avoir ses propres amis ou des amis qui n'étaient pas ceux de son mari. Or, le fait qu'une femme devienne croyante et qu'elle commence à fréquenter une assemblée chrétienne sans son mari, mais forcément entraînait des nouveaux contacts. Des gens qui n'étaient pas les amis du mari. Et de ce fait-là, le mari pouvait avoir le sentiment de perdre quelque chose de son autorité dans le foyer conjugal. Par ailleurs, la société de l'époque voulait aussi que la femme suive la religion de son mari. Elle voulait que la femme adore les mêmes dieux, les mêmes divinités. Or, quand une femme se convertissait, il n'y avait plus cette unité spirituelle dans le couple. Et donc, la femme était vue comme une menace pour la société. Et le mari, qui était un croyant, pouvait considérer que le culte de son épouse à Jésus-Christ, surtout que ce culte-là était exclusif, était peut-être comme un acte de rébellion contre son autorité. Et si la femme persévérait malgré tout dans sa foi, et que cela s'apprenait à l'extérieur, le mari pouvait se sentir embarrassé, parce qu'il se demandait ce que les autres allaient penser de sa manière de gérer son propre foyer. Et Pierre ici dit, « Femme, soumettez-vous à votre mari, même s'il n'est pas chrétien, et même s'il n'agit pas selon la parole de Dieu, et même s'il agit de manière injuste. » Vous allez remarquer que Pierre ne précise pas dans le détail la manière dont cette soumission se décline. Il ne donne pas non plus dans le détail des recommandations à la femme qui devient chrétienne. Il ne lui dit pas, par exemple, d'aller au culte, parce que ça aurait été perçu comme quelque chose de trop intrusif dans la société de l'époque, de trop subversif. Il se garde de dire à la femme « va au culte ». Il lui demande simplement d'être soumise à son mari. Il se garde aussi de dire à la femme « reste à la maison si ton mari est un croyant ». Non, il ne donne aucune recommandation, laissant le couple s'organiser par lui-même. C'est au mari et à son épouse de savoir comment ils vont faire maintenant qu'ils n'ont plus la même religion, le même fonctionnement. Et c'est intéressant. Pierre-là est relativement subversif. Au lieu de maintenir l'ordre dans la société, il dit simplement « soumettez-vous », ce qui était la règle à l'époque, mais en laissant la possibilité au conjoint de déterminer ce que veut dire cette soumission, en laissant peut-être la possibilité au mari non-croyant de laisser sa femme aller à l'église, il intervient dans le mode de fonctionnement de la société. Et il questionne la manière dont la soumission se vivait dans la société. La notion de soumission se réfère à un ordre établi par Dieu. Il n'est pas question ici que l'homme impose cette soumission, il est question que la femme accepte d'elle-même, de son plein gré, qu'il y ait un ordre établi par Dieu et qu'il y ait des rôles différents dans le couple entre l'homme et la femme. « Femme, soyez soumise à votre mari, dit Pierre, afin que, s'il en est qui refuse d'obéir à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. » En se soumettant, le mari pourra observer le comportement de sa femme. Et il va se rendre compte que la motivation de sa femme est liée à son amour du Christ. Et ainsi, même sans parole de sa femme, il pourra comprendre ce que veut dire l'amour du Christ. La femme ne pouvait pas instruire son mari à cette époque. C'était inconvenant que la femme cherche à dire à son mari ce qu'il devait croire. Elle n'avait que le silence comme possibilité. que l'exemplarité de sa conduite comme possibilité d'interpeller son mari. Pierre dit à la femme qu'elle doit mener une vie pure, donc elle doit avoir une conduite exemplaire, et cette conduite exemplaire, c'est de mener une vie pure dans tous les domaines. Pas juste une vie honnête, une vie correcte, mais une vie pure. C'est une très grande exigence. Et puis qu'elle doit avoir du respect pour son mari. Encore une fois, que ce mari soit croyant, incroyant, qu'il soit juste dans son attitude ou qu'il soit injuste dans son attitude. Ce qui doit motiver cette femme, ce n'est pas la crainte du mari, mais c'est la crainte de Dieu, c'est l'amour pour Dieu. Et Pierre s'arrête sur ce que peut signifier cette bonne conduite dans la vie de tous les jours. Et pour cela, il évoque l'apparence, la tenue, l'apparence extérieure de la femme. Ce n'est pas juste un détail anecdotique, c'est très révélateur de ce que Pierre est en train de dire. Il explique aux femmes chrétiennes que leur beauté est d'abord une beauté intérieure et que cette beauté vient d'un esprit qui est doux et paisible. Verset 4. Comment, dans des situations injustes à la maison, la femme peut-elle garder un esprit doux et paisible? Comment peut-elle rester douce et paisible quand il y a peut-être de la colère en elle par rapport aux injustices, quand il y a peut-être un esprit de vengeance qui se développe? Bien, ça nécessite en tout cas une grande force intérieure et ça nécessite d'avoir un cœur qui est proche du cœur de Dieu le Père. Il faut que l'esprit de colère ou de vengeance soit vaincu pour qu'elle puisse parvenir à cette douceur, à ce respect. Et pour y parvenir, Pierre demande à ce qu'il y ait une cohérence entre l'aspect extérieur et l'attitude intérieure. Un être qui n'est pas unifié, un être qui n'est pas cohérent, un être où il y a le semblant que tout va bien dans l'aspect extérieur et l'inverse à l'intérieur, ce cœur-là ne pourra pas être un cœur apaisé. Donc la question qui se pose pour les femmes qui deviennent chrétiennes, c'est comment avoir une conduite digne à l'intérieur du cœur et dans les comportements qui rejaillissent à l'extérieur? Est-ce que dans ma parure, je cherche un statut social? Est-ce que je cherche à être à la mode, à plaire, à séduire? Est-ce que je cherche à avoir une parure pour qu'elle soit au goût de mon mari? La réponse que suggère Pierre, c'est de faire en sorte que tout l'être, extérieur et intérieur, puisse être approuvé de Dieu. Alors parfois, on a utilisé ce texte qui parle de tous les domaines de la coquetterie féminine, hein, la coiffure, les bijoux, les vêtements, pour édicter des normes. Je ne crois pas que c'est ainsi qu'il faut comprendre le texte. Le Seigneur n'est pas contre le souci d'une présentation agréable ou soignée de la femme. Mais ce qu'il aimerait, c'est qu'il y ait une cohérence entre la parure et l'attitude intérieure. Or, il faut aussi savoir qu'à cette époque, la parure extérieure s'était souvent perçue comme un moyen de séduction. Or, si la femme devient chrétienne, qu'elle commence à sortir de la maison, ce qui n'était pas forcément courant, qu'elle se rend dans la communauté des croyants, eh bien, elle devait s'attendre à ce que les gens l'observent, observent la manière dont elle est, dont elle s'habille, dont elle se conduit. Il ne fallait pas que la société puisse commencer à s'interroger sur ses motivations parce qu'il y aurait eu un doute quant à son apparence. Je laisse la question de l'exemple des femmes saintes et de Sarah pour ce qui va être dit tout à l'heure. Et je m'arrête encore au verset 7 qui touche maintenant les hommes. Que demande Pierre pour les maris? Il leur dit « Vous de même, Marie, menez la vie commune avec compréhension ou discernement. » Donc, Pierre instruit les maris en leur demandant d'avoir du respect pour leurs femmes, et d'honorer la faiblesse du sexe féminin. Alors c'est quoi cette faiblesse du sexe féminin? Ce n'est pas une faiblesse psychique dont il est question ici. Ce n'est pas non plus l'envie de théoriser sur la différence entre le féminin et le masculin, entre ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui serait de l'ordre de la culture. Donc, tout prosaïquement, la femme à cette époque souffrait au moins de deux handicaps. Le premier, c'est qu'elle vivait une forme de précarité sur le plan social et puis dans sa capacité juridique d'agir. Puis d'autre part, elle n'avait absolument pas la même force que l'homme, alors que le travail, la société, si vous voulez, offrait des travaux, un travail qui était d'abord musculaire. Donc ce que dit Pierre, c'est que le mari chrétien doit tenir compte de la fragilité à la fois sociale et physique de son épouse. Il doit prendre soin de son épouse. Et puis deuxième chose, il l'invite à avoir un regard chrétien sur l'épouse. Il lui dit, mais ce n'est pas juste ton épouse, c'est aussi une sœur en Christ. Aie sur elle le même regard que tu aurais à l'égard de tout frère ou de toute sœur en Christ. Elle est une cohéritière de la grâce. Elle est donc égale devant Dieu, égale sur le plan du salut. Et Pierre ajoute même que le mari, dans sa prière pour sa famille, ne va pouvoir être entendu de Dieu que s'il a du respect à l'égard de son épouse, que s'il a un comportement qui est digne. Ce qui sous-entend implicitement que Pierre s'oppose ici à toute violence domestique, et il le dit bien. Celui qui se livrerait à la violence domestique ne pourrait pas être entendu du Seigneur. Alors on peut se demander, mais comment appliquer ce texte pour nous aujourd'hui? Quelle soumission? J'empiète peut-être déjà un peu sur ce que notre frère va dire tout à l'heure, j'espère pas trop. Mais quelle soumission pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, le fondement de la soumission, sans que j'entre maintenant dans les détails, c'est un fondement théologique pour le couple. Par contre, comment se vit cette soumission aujourd'hui? Ça dépend du lieu où l'on est, ça dépend de l'époque, ça dépend de la culture. Et ce qui peut être perçu comme l'expression d'une soumission aujourd'hui peut être assez différent de la manière dont la soumission était exprimée au premier siècle. Les attentes sociales, les attentes de la société à l'égard des femmes ou à l'égard des couples aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'au premier siècle. La société aujourd'hui accorde des droits aux femmes qui ne sont pas les droits que les femmes avaient au premier siècle, ou en tout cas pas de manière générale. Mais ce n'est pas parce que l'ordre dans le couple se décline différemment qu'il ne doit plus y avoir d'ordre. Ce n'est pas parce que l'ordre se décline différemment que les instructions de Pierre n'ont plus de pertinence pour nous aujourd'hui. Et je livre juste une clé pour essayer de réfléchir, c'est que les maris chrétiens ou les femmes chrétiennes, aujourd'hui, sont appelés à vivre leur mariage d'une façon qui honore l'Évangile dans l'ordre social actuel. Je répète, parce que je crois que c'est la clé. Les maris chrétiens, les femmes chrétiennes, sont appelés à vivre leur mariage d'une façon qui puisse honorer l'Évangile dans la société, dans l'ordre de la société d'aujourd'hui. Ils ne doivent pas dénaturer l'Évangile par leur façon de vivre leur mariage. Cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'abus du conjoint, qu'il ne peut pas y avoir d'infidélité, qu'il ne peut pas y avoir de négligence malveillante, pas d'abandon du conjoint. Pierre n'entre pas dans les détails de cette soumission et de la manière dont s'articule cet ordre. Et peut-être qu'il sache que l'Église n'entre pas non plus trop dans les détails, et que tout comme Pierre, elle laisse le soin aux époux de définir eux-mêmes comment s'articule cette différence, cet ordre, et cette manière de se mettre dessous, sous l'autorité. L'Église a pour tâche de rappeler les grands fondements du mariage, et de rappeler que le mariage doit refléter la relation de Christ à son Église, au couple après, individuellement, en fonction de leur culture, de leur situation, de trouver comment vivre ça au sein de leur famille. Amen.
L'élément de notre passage et de plusieurs autres parallèles dans le Nouveau Testament qui heurte le plus violemment la sensibilité contemporaine, c'est celui duquel notre pasteur vient de nous parler déjà assez nettement et que je dois exposer un peu davantage. C'est celui de la subordination de la femme au mari dans le couple marié. Je préfère le mot de subordination au mot soumission parce que c'est une traduction un tout petit peu plus exacte. C'est à peu près l'équivalent, mais il y a le mot ordre dans la construction même du mot subordination et c'est bien le cas du mot grec utilisé par l'apôtre Pierre dans ce passage et le mot qu'on trouve d'ailleurs dans pas mal d'autres passages. Le point clé, c'est qu'il y a un ordre que Dieu a établi, ce que le mot soumission lui-même ne dit pas. Donc c'est le thème qui heurte nos contemporains et nous sommes dans le monde, nous subissons ses influences, les chrétiens évangéliques ne sont pas indemnes des contagions qui peuvent se produire. Je pense même que le sujet que nous abordons peut être une pierre d'achoppement pour un certain nombre de chrétiens ou de personnes qui seraient en train de s'approcher du Seigneur Jésus et qui tout à coup découvriraient cet élément dans les textes bibliques et en seraient violemment repoussés. Nos politiciens, nos médias exaltent comme valeur, voyez, c'est le mot qu'ils répètent à l'envi, l'égalité, et en particulier l'égalité des sexes ou des genres, comme ils disent aujourd'hui, et la liberté de la femme. Notre modernité tardive porte à l'incandescence ces revendications égalitaires et libertaire. Alors nous savons, c'est un discernement qui nous a été donné, et c'est l'expérience même que par le Saint-Esprit nous faisons, que la revendication d'égalité et de liberté ne peut pas valoir dans notre rapport à Dieu. Nous savons que l'infinie supériorité de Dieu, l'inégalité entre lui et nous, mais c'est le fondement même de notre joie. C'est ce qui nous assure une protection sûre. C'est ce qui nous permet d'avancer dans la louange. Donc, nous savons qu'il n'y a pas d'égalité entre Dieu et nous, et que c'est bien. Et nous savons aussi que les libertés dont se targue notre monde sont des libertés creuses, dont la véritable expérience se retourne très souvent contre ceux qui la revendiquent, qu'en réalité, c'est si le Fils, Jésus lui-même, nous a franchis, que nous sommes réellement libres, comme Jésus le dit dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8. Et comme le dit aussi un de nos vieux cantiques, j'aime beaucoup cette ligne, je ne suis vraiment à moi-même que quand je t'appartiens. Nous le savons dans notre rapport à Dieu, mais il ne faut pas faire de court-circuit. Qu'en est-il de l'application à notre rapport les uns avec les autres et au rapport du couple dans le mariage? Alors je vous propose trois points. D'abord, ce que le texte ne veut pas dire. Ensuite, la vérité qu'il nous communique et que nous devons maintenir aujourd'hui. Et finalement, une réflexion sur le motif de la sagesse divine qui est, je crois, sous-jacent à l'enseignement qui nous est donné. Alors d'abord, ce qu'il ne veut pas dire, c'est peut-être assez évident, mais il faut le marquer. Le texte ne justifie en aucune façon la tyrannie domestique. J'ai écrit un chapitre dans un livre qui est paru il y a quelques mois seulement, qui a été publié comme un cahier associé à la revue de l'école pastorale baptiste de Massy. Ce cahier s'appelle « Violence conjugale, les identifier pour lutter contre elle en Église ». Et j'ai écrit un chapitre qui est très proche du sujet que nous abordons maintenant, qui est intitulé « Harmonie ou tyrannie ». Et je pense que je suis en droit de souligner très fort que le texte que nous avons lu ne justifie en aucune façon la tyrannie dans le foyer. Il ne légitime pas une autorité qui écraserait la femme, qui la diminuerait, qui serait un carcan l'empêchant de s'épanouir. Ce n'est pas du tout le sens de cette parole. Je crois que pouvoir l'affirmer avec force au nom de toute la Bible. Et je signale au passage que la parole prononcée par le Seigneur après la désobéissance du premier couple, au chapitre 3 de la Genèse, quand il est dit à la femme « Ton élan te portera vers son mari, mais lui dominera sur toi », ce n'est pas un commandement, c'est l'annonce des résultats désastreux du péché. C'est précisément comme le dégât que produit la perversion de l'ordre bon voulu par Dieu que la domination masculine sur la femme nous est présentée dans ce passage de Genèse 3, 16. Alors dans notre passage, ce qui montre ce que je viens de vous dire, c'est d'abord le passage sur l'homme, sur le mari, qui rééquilibre ce qui est dit à la femme d'abord. Et je soulignerai le mot d'honneur, rendez honneur à la femme. C'est ce qui est le terme exact dans le texte original. Le mari est si peu libre d'écraser sa femme à sa guise que sa vocation même est de lui rendre honneur, de la promouvoir, de faire apparaître ses talents et sa valeur. Voilà ce qui est, dans notre passage, indiqué pour la conduite du mari avec cet accent que notre pasteur vient de mettre déjà en évidence de l'appartenance au même Seigneur, la jouissance du même salut. Nous héritons ensemble, mari et femme, de la grâce de la vie éternelle. Et il y a une sorte de codépendance dans cette vie chrétienne, puisque c'est quand il y a cette harmonie dans le couple qu'il n'y a pas d'obstacle aux prières, dit le texte même que nous venons de voir. Et puis ensuite, il y a l'exemple de Sarah. Je trouve très intéressant cet exemple de Sarah, donc l'épouse d'Abraham. Elle est présentée comme le modèle de cette subordination. Mais si vous tournez vers la Genèse, il me semble assez évident que Sarah n'était pas la victime d'une domination lourde qui l'aurait écrasée. D'abord son nom, hein. Princesse, la princesse. Et c'est un nom que Dieu lui donne, puisqu'il a changé son nom de naissance, Sarai. Alors, je ne sais pas d'interpréter ce changement, il y a différentes hypothèses, mais Dieu confirme qu'elle s'appellera maintenant Sarah, la princesse. Et puis en disant que toutes les femmes croyantes sont maintenant comme des filles de Sarah, en fait, de même qu'Abraham est un patriarche, Sarah est élevée au rang de matriarche. C'est un rôle d'honneur et d'autorité qui lui est conféré de cette façon. Et puis alors, quand nous lisons les récits de la Genèse, nous voyons que la princesse, elle savait faire valoir ses droits de princesse. Qui est-ce qui décide? Puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, que Sarah va rendre enceinte sa servante. Parce que selon la loi coutumière de l'époque, l'enfant pourrait être l'enfant de la maîtresse de Sarah. Mais c'est Sarah qui le décide. C'est Sarah qui pousse Abraham. Et ensuite, quand les choses ne tournent pas comme Sarah l'aurait voulu, qu'il est clair que Ismaël est l'enfant de Hagar et pas vraiment de Sarah, alors c'est elle qui décide de chasser, et ça c'est contre la loi coutumière, de chasser Hagar, et Abraham n'a pas du tout envie. Abraham est très réticent, et c'est Sarah qui l'emporte. Alors, Dieu dit, parce que c'est son plan très général pour l'histoire sainte, Dieu dit à Abraham, si, voilà, écoute Sarah, c'est l'autorité de Sarah que Dieu la valide, alors il promet en même temps de donner toute la compensation voulue pour l'injustice faite à Agar, parce qu'il y a une injustice, l'injustice faite à Agar, et il va s'occuper d'Agar et Ismaël, comme le récit nous le raconte aussi. Mais vous voyez, Sarah joue un rôle d'initiative assez remarquable. Ce n'est pas du tout la personnalité que carpette sur laquelle Abraham s'essuierait les pieds. Hein. C'est tout à fait le contraire. Donc, il me semble que l'exemple de Sarah dans notre passage est très bien choisi pour nous prouver que ce que le texte ne veut pas dire. Deuxièmement, alors, que faut-il retenir de cet enseignement ? Il me semble qu'il faut dire qu'entre l'homme et la femme, il y a différence de rôle. Que Dieu l'a voulu ainsi, qu'il y a un ordre qui régit leur relation, une structure dissymétrique, c'est pas symétrique, du couple. Alors il y a certains évangéliques qui refusent cet enseignement. En particulier, M. Gilbert Bilezikian, chez qui j'ai mangé plusieurs fois quand j'étais en Amérique, qui est un franco-arménien, mais qui a fait sa carrière aux États-Unis. Il a eu quelques ennemis récemment, mais je ne parle pas de ça. Dans un livre qui a été traduit en français, il essaye de montrer qu'il n'y a aucune différence dans la Bible. Il est obligé pour ça, à mon avis quand même, de triturer les textes bibliques d'une façon qui est indéfendable. Mais il essaye, vous voyez. Alors, je crois que le texte nous enseigne, comme d'autres textes, qu'il y a un ordre différenciateur qui est exprimé dans les épîtres de Paul par l'image de la tête. Nos traductions disent souvent le mot « chef », mais ça veut dire « tête hein », « couvre-chef », c'est ce qui couvre la tête. C'est l'image de la tête par rapport au corps qu'il emploie, et cette image évoque l'autorité. M. Bilezikian, par exemple, a essayé de prouver le contraire, mais moi, j'ai bien étudié toutes les preuves qu'il prétendait apporter. Non, ça ne tenait pas. Et M. Sylvain Roberowski a écrit plusieurs articles qui prouvent que l'image de la tête est là pour parler d'une certaine autorité. Mais il faut tout de suite ajouter deux choses. Quand on dit qu'il y a un différentiel d'autorité, d'abord, c'est une autorité limitée. Toutes les autorités que Dieu délègue sont limitées, celles des pouvoirs politiques aussi bien. Et ceux qui ont cette délégation en rendront compte à Dieu. Mais de toute façon, il ne s'agit pas d'un pouvoir absolu. Cela est très généralement clair de toute autorité conférée par Dieu. Et deuxièmement, l'autorité s'exerce de manière extrêmement diverse selon les situations, selon les plans. L'autorité des parents sur les enfants ne s'exerce pas comme l'autorité du roi sur ses sujets, et même des présidents de la République sur les citoyens. Il y a des différences de modalité, et l'autorité que l'image du chef, de la tête, implique, s'exerce d'une manière approprié à la relation où le mari est appelé à faire honneur à la femme. Ce qui veut dire que s'il a certaines initiatives, ça n'empêche pas celle de la femme, ça veut dire que si sur certains points il doit trancher, ce n'est qu'après mûre délibération et sans contrainte. Voilà, me semble-t-il, ce qu'on peut dire de l'exercice de l'autorité. Il y a un petit détail qui peut être intéressant, je ne suis pas sûr, mais ce qui est traduit Marie dans toutes nos versions bibliques, et à juste titre, hein, mais c'est littéralement dans l'original du Nouveau Testament, son propre homme. C'est le mot homme qui est employé pour le mari, mais avec la précision, son propre homme. Alors je me demande s'il n'y a quand même pas la petite pensée associée chez l'apôtre Pierre, qu'elle soit subordonnée à son propre homme et pas à un autre. C'est un avertissement contre la perturbation de la vie de couple lorsque la femme, par exemple, peut être sous l'influence très forte, mais je crois que ça vaut aussi pour l'homme et éventuellement une autre femme, sous l'influence très forte d'une autre personne. C'est malsain. Et donc, je saisis l'occasion au moins de signaler ce problème. Autrefois, c'était un problème pour les couples catholiques. Et une partie des motivations anticléricales de pas mal d'hommes en France, c'était leur ressentiment devant l'influence des confesseurs, des prêtres confesseurs sur les femmes. Je pense que cette mention, son propre homme, est intéressante à observer. Alors cet ordre établi par Dieu dans les relations du couple, avec portée donc limitée, mais en même temps il faut maintenir cet ordre-là, il est de pure décision divine. Il n'est pas fondé bibliquement sur les compétences, les capacités de l'un ou de l'autre. Ça, c'est un contraste qui me frappe beaucoup avec les traditions millénaires de l'humanité, autrement. Dans toutes les sociétés, vous avez « Oh, la femme, elle est ceci, la femme est cela, la femme est capricieuse, la femme, souvent femme variée, etc. » Vous ne trouverez rien comme ça dans la Bible. C'est, me semble-t-il, très, très frappant. Ce n'est pas un jugement de ce genre qui est porté a priori. C'est Dieu qui décide. Et pourquoi le décide-t-il? Moi, je compare cette décision, c'est une pensée qui a pris de plus en plus d'importance pour moi au cours de mes réflexions. C'est un peu comme un directeur de théâtre qui dirige une pièce. Il assigne des rôles. Alors souvent, il tient compte un peu des personnalités, etc. Mais c'est libre. Parfois, il en change alors que la pièce est jouée. Dieu assigne à l'homme le rôle de le représenter et assigne à la femme de représenter son peuple, sa communauté, l'Église dans la Nouvelle Alliance. Voilà ce qui fonde cette différenciation selon l'ordre divin, me semble-t-il. Et ça veut dire de la souplesse, que Dieu peut très bien jouer de la diversité des situations à cet égard. Je reviens aussi sur la forme concrète que prend la subordination de la femme. M. Durcher a déjà fait ressortir le point, mais la notion de respect. Le mot n'est pas prononcé pour l'homme. Là, c'est le mot d'honneur à promouvoir, hein, du côté de la femme. Mais pour la femme, c'est le respect, la conduite respectueuse. Et mon expérience me porte à dire que c'est un point à souligner. Il y a une très grande tentation des femmes de mépriser les maris. Je crois que les femmes, très souvent, oh, ce sont de grands enfants. Ah, et finalement, ils ne savent pas y faire. Et ils se font rabrouer dans leur travail, alors ils se rattrapent dans le foyer. Mais finalement, c'est méprisable. Et les hommes prêtent le flanc. Hein. Comme homme, je suis bien obligé de le dire. Les hommes prêtent le flanc à ce mépris. Mais l'exhortation de la Bible, c'est qu'ils n'ont respecté. Même quand les hommes ne méritent pas ce respect, il s'agit d'essayer de leur porter ce respect. C'est un peu comme pour les autorités. Paul, quand le grand prêtre, dans le livre des Actes, se conduit mal, dit « Dieu te frappera, muraille blanchie ». c'était sans doute une expression injurieuse pour nous, ça paraît un peu bizarre, mais Muraille blanchit. Et on lui dit, c'est le grand prêtre. Il n'avait pas reconnu. Ah, je retire, parce qu'il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Respect de ce rôle assigné par Dieu, même quand celui qui l'exerce, l'exerce mal. Et je pense que c'est de cette façon que la femme doit essayer de respecter le mari, même quand elle n'a pas l'impression qu'il le mérite en termes. Et alors, ça me conduit quand même à évoquer deux situations, enfin deux éléments de situation qui existent, hélas, tragiques. Il y a, je pense, des cas où l'homme est tellement insuffisant, se conduit de façon tellement méprisable et destructrice et chaotique, que là, l'ordre est complètement bafoué, que l'ordre en cause. Alors, je pense que la femme doit crier au Seigneur pour qu'il l'aide à ne pas totalement mépriser son mari. Mais il y a des solutions de secours qui ne sont pas interdites. Justement parce que l'autorité du mari est limitée. Et c'est un cadre défini de l'ordre voulu par Dieu qui est en cause. Donc je ne pense pas que là, nous devions dire « Ah, la femme doit se soumettre, doit se soumettre ». Et en particulier, là, j'aborde un sujet extrêmement délicat, douloureux, mais je connais au moins deux cas, chez des évangéliques. Quand le mari se comporte d'une manière indigne à l'égard de ses enfants, dans l'ordre de ce qu'on appelle faussement pédophilie, avec une tentation incestueuse ou des actes incestueux, la femme doit résister, la femme doit dénoncer, la femme n'a pas à se soumettre, à croire que ces ordres de la parole de Dieu signifient qu'elle doit laisser faire. Elle doit protéger ses enfants. Là, il faut absolument l'affirmer. Je le maintiens, et cela est en accord avec cette volonté de l'ordre divin. Et alors j'en arrive finalement à quelques réflexions sur le motif sous-jacent dans la sagesse de Dieu pour qu'il y ait un tel ordre. Je pense qu'il faut un tel ordre pour qu'il y ait une entité nouvelle qui ait sa vie propre, le couple. Le couple, ce n'est pas seulement un plus un égale deux, c'est un plus un égale un. C'est une unité nouvelle qui doit être structurée avec sa propre différenciation interne, une cellule à un noyau, etc. Je pense que c'est le caractère d'entité nouvelle du couple qui est ici en cause. Et on le voit bien quand on pense à la situation qui serait celle des deux qui auraient un attrait mutuel, s'ils étaient simplement de même statut défini avec des rôles semblables. Je dis, ou bien c'est la fusion, ils sont tellement semblables que c'est la fusion. Alors il y a des gens qui rêvent du couple fusionnel, mais c'est malsain. Ce n'est pas prévu, c'est une alliance, ce n'est pas un alliage où tout est fondu ensemble. Ou bien c'est une simple juxtaposition de deux individualités qui restent ensemble tant qu'elles y trouvent avantage, mais qui se séparent très facilement, ou qui ont entre eux un rapport de rivalité, de jalousie. Ça aussi, ça arrive dans les couples, assez souvent. Donc, je pense que cette structure différenciatrice du modèle de l'ordre divin a cette propriété de permettre l'harmonie. L'harmonie et pas la tyrannie, c'est le sens de mon titre. Et c'est ainsi que se reflète dans le couple l'alliance de Dieu et de son peuple, de l'humanité, l'époux et l'épouse, Jésus-Christ et son Église. Et c'est aussi que se reflète, c'est aussi ainsi que se reflète l'ordre dans la vie divine elle-même. Dans la Trinité, il y a subordination. Le Fils est subordonné au Père, alors qu'ils sont un seul Dieu, qu'il a exactement toutes les mêmes attributs que le Père. Mais il y a un ordre qui crée l'harmonie entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je pense que l'ordre qu'évoque l'apôtre Pierre a pour fonction d'en offrir comme une image. Voilà ce que j'avais à vous communiquer. J'espère avoir... Non, j'ai quand même un peu dépassé mon temps, je pense. Oui, d'autres minutes. Mais enfin, il y a maintenant un temps pour des questions avec M. Zurcher. Nous pouvons répondre, je pense, une dizaine de minutes. D'accord, monsieur? Oui, d'accord. Alors, que ceux qui ont des questions viennent les poser au micro, si possible, pour que tout le monde entende bien.
Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez parlé d'inceste, etc., mais je crois aussi que, malheureusement, dans beaucoup de couples, les femmes subissent des traitements physiques. J'ai eu à rencontrer une jeune sœur qui a été frappée avec la ceinture et qui, pendant 6 mois, n'a pas pu bouger. Et c'était par quelqu'un qui était un ancien de l'Église. Et je crois que souvent, c'est vrai, c'est assez à la mode de parler actuellement d'inceste, et malheureusement. Mais je crois que malheureusement aussi, la méconnaissance, justement, de dire qu'on a l'autorité, et mauvaise autorité, mais en fait, que parfois elle se manifeste terriblement.
Alors, c'est le sujet de ce livre que j'ai mentionné, « Violence conjugale », donc je vous le recommande.
J'aimerais juste faire un petit commentaire ici. C'est vrai que nous avons tout, par les médias, hein, appris qu'il y avait souvent des violences ou des abus sexuels dans l'Église catholique. Enfin, c'était toujours chez les autres ou dans les milieux scolaires. Mais nous n'avons pas souvent pris conscience que ça peut aussi exister dans les milieux évangéliques. Et il y a tout un travail qui est en train d'être fait par le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, et ils viennent d'éditer, j'ai reçu ça la semaine passée, du matériel qui permet d'aider les églises à prendre conscience qu'on ne peut pas tolérer quelque abus que ce soit, mais notamment les abus sexuels au sein de l'église, et qu'il s'agit de dénoncer ces choses-là. Le moment venu, on en parlera davantage aussi ici. Autre question? On vous demande de vous approcher pour poser la question. C'est un peu intimidant, je le sais, mais ça permet à tout le monde d'entendre et puis à ceux qui nous suivent à distance aussi de vous entendre. Il faut croire que tout a été parfaitement clair.
Oui, ce que j'aimerais poser la question avec le professeur Henri Blocher sur la subordination de la femme. Et en plus, ce que j'aimerais comprendre, la femme concrète, c'est le respect, ce que vous avez dit. Donc, j'aimerais avoir une explication un peu plus claire, surtout sur le respect, sur la femme concrète et le respect. Merci.
J'essaie de caractériser davantage le manque de respect pour que nous discernions bien de quelle façon le respect lui-même peut être manifesté. Je pense que, de manière générale, il s'agit de moyenne, bien sûr, comme pour la force physique, mais de manière générale, la femme a une capacité verbale supérieure à l'homme. C'est prouvé à partir du développement des hémisphères du cerveau, hein, et, qui est un peu différent entre le sexe masculin et le sexe féminin. Et je pense que nombre de femmes usent d'une capacité de parole plus facile pour manifester le mépris de l'homme, et pour le diminuer réellement. Qu'il y a du harcèlement, par exemple, qui existe assez souvent, y compris là encore dans des couples chrétiens. Vous savez, nous sommes de misérables pécheurs, nous aussi, hein, si le Seigneur nous, nous fait grâce, il nous fait grâce. Oui. Et donc, je pense que ça, c'est une forme qui existe fréquemment. Alors, il y a parfois des violences physiques aussi. C'est, je crois, d'après les statistiques, entre 15 et 20% qui seraient plutôt de la femme vers l'homme. Ça existe également. Hein. Il ne faut pas ignorer totalement l'existence de ce problème. Mais je pense que l'usage de la parole est particulièrement important et une attitude fondamentale. Le respect se manifeste par une tendance à valoriser l'autre, à reconnaître qu'il peut avoir raison, par exemple, à prendre au sérieux ce qu'il dit. Or, je pense qu'assez souvent, le manque de respect se manifeste par « je sais déjà ce que tu vas dire avant que tu l'aies dit, et puis je le rejette purement et simplement. » Nous savons ça.
C'est pas moi, c'est quelqu'un qui ne peut pas venir devant, qui pose cette question. Comment faire quand le mari est chrétien, mais la femme ne l'est pas, et que le mari pousse et oblige la femme à venir à l'église, par exemple, ou use d'autorité sur elle?
Bon, ben, hélas, ça ne marche pas le plus souvent. C'est la première chose à dire. Et je pense qu'on peut appliquer, dans ce cas du mari chrétien, alors d'une part l'idée de l'imitation, précisément l'autorité de l'homme sur sa femme, n'est pas une autorité qui puisse empiéter sur le rapport de cet individu unique que Dieu aime pour elle-même, avec Dieu. Ça, c'est le domaine de Dieu. Donc, contraindre en la matière est profondément opposé au message de la Bible sur les armes spirituelles et pas charnelles qu'il faut mettre pour promouvoir le royaume de Dieu. Mais j'ajoute encore un point, parce que je me rappelle que c'était un peu un leitmotiv quand notre pasteur s'appelait M. Marc Alger. Les anciens se rappellent Marc Alger. Il soulignait que l'unique cas où la Bible nous recommande un témoignage sans parole, c'est celui de ce passage d'un Pierre 3. Dans le couple, il vaut mieux ne pas abuser de la parole, du témoignage, qu'il soit gagné sans parole. Oui. Et ça joue peut-être spécialement pour la femme à cause de cette aptitude à la parole que j'ai évoquée il y a un instant, mais ça joue aussi dans le sens inverse. Et ce n'est pas de cette façon que... c'est par une conduite observée du plus près par le conjoint que l'autre peut être réellement touché.
Merci, je n'ai rien à ajouter pour, de mon côté, mais par contre, nous allons conclure là ce temps de questions-réponses et ces deux exposés.